Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
L'actualité, vous le savez, de la tech, c'est tous les soirs sur BFM Business, 20h-22h, à la radio, à la télé. Et qui dit tech, dit aussi forcément automobile. Hein. Aujourd'hui, une auto de dernière génération, c'est un peu un smartphone sur roue, je dis souvent, mais il y a de plus en plus de composants électroniques, des écrans, de la technologie, des capteurs qui font que, bien voilà, c'est finalement à peu près les mêmes technos qu'on retrouve dans notre ordi que sur une automobile. Je suis très heureux d'accueillir Louis-Carl Vignon ce soir dans Tech & Co. Bonsoir Louis-Carl.
Bonsoir François.
Président de Ford France. Voilà, vous êtes à la tête de Ford France depuis 2017. Vous êtes un passionné vous-même d'automobile.
Absolument.
De sport mécanique, d'une manière générale. Alors, de foot, je ne sais pas, ce soir.
Ça commence pas très bien.
Ça commence pas très bien, puisque, voilà, si, alors, même si vous vous intéressez pas beaucoup au foot et que vous êtes avec nous en direct, sachez que pour l'instant, l'Australie mène 1-0 face à la France. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Alors, reconcentrons-nous sur notre interview. Louis-Carl, la stratégie de Ford, qui est, on va dire, une dame de l'automobile qui existe depuis 1903. Hein, voilà, Henry Ford a créé ça en 1903. Forcément, l'automobile a suivi toutes les évolutions technologiques. C'est d'ailleurs amusant de... Je regardais un vieux document. La première automobile, c'était un véhicule électrique.
Absolument. En fait. La première Ford était un véhicule
incroyable
électrique.
Incroyable, quand même.
Et puis ensuite, qui n'a jamais été produite à grande échelle. C'est bien trop tôt, en 1903, comme vous disiez. Puis ensuite, la Model T, toute l'histoire qu'on connaît de Ford, le Fordisme, l'industrialisation, une voiture pour tout le monde pourvu qu'elle soit noire. Donc évidemment, depuis, on a fait beaucoup de chemin. Et pour annoncer une stratégie qui est une évolution, en fait, ça a commencé en 2017 et petit à petit, on a pris un virage d'abord d'électrification de nos véhicules avec l'hybridation. Et puis maintenant, depuis 2 ans, réellement, très forte accélération sur une stratégie, je dirais, pour reprendre un terme anglais, faire un all-in sur l'électrique, avec un objectif clair au niveau mondial qui est d'être neutre en carbone en 2050. Alors ça, c'est pour la vision mondiale.
Neutre en carbone, ça veut dire que de la construction du véhicule jusqu'à sa destruction, on a une neutralité carbone.
Absolument, ça veut dire que vous êtes neutre lorsque vous construisez le véhicule. Ouais. Ça veut dire que vos usines, évidemment, n'émettent pas de carbone.
C'est ça.
Ça veut dire que vos fournisseurs sont neutres en carbone ou que vous avez un moyen de neutraliser leur émission carbone.
Avec les crédits carbone.
Voilà, et que l'usage des véhicules, évidemment, est neutre en carbone. Une réelle neutralité carbone. Et puis, bien, l'Europe dans tout ça. Alors, vous le disiez, Ford est une vieille dame, créée en 1903, présent en Europe depuis 1904, donc un des plus vieux constructeurs européens.
Ouais.
Et l'Europe est la tête de pont dans cette stratégie d'électrification de Ford au niveau global, puisque on vise en Europe cette neutralité carbone dès 2035. Donc, 15 ans avant cette neutralité carbone globale.
Parce que vous avez aussi l'épée de Damoclès de la réglementation européenne, qui est peut-être un petit peu plus sévère que celle américaine.
C'est-à-dire
que 2035, rappelons-le, hein, c'est quand même assez fort, vous n'aurez plus, enfin les constructeurs automobiles n'auront plus le droit de vendre des véhicules thermiques.
Tout à fait. Et pour ça, donc, nous avons défini une stratégie, une roadmap, puis un plan, on va dire, qui va nous emmener progressivement vers ce zéro moteur à combustion en 2035, avec une première échéance 2030 où nos véhicules particuliers seront à 100% électriques, et une deuxième échéance, vous savez que Ford est le leader européen des véhicules utilitaires, donc évidemment, les véhicules utilitaires font partie de cette stratégie, 2035, 100% des véhicules utilitaires seront également électriques. Vous parliez de cet accord au niveau, cette demande de la Commission européenne d'être tout électrique en 2035. Ford fait partie des 27 sociétés, en réalité, qui a poussé la Commission européenne à rester en ligne avec la déclaration et donc à signer réellement cette ambition d'interdire les moteurs à combustion.
Ce qui n'était pas le cas au début, je crois. Il y a eu quand même une période de flottement lorsqu'il y a eu cette rumeur de cette date de 2035. Je crois qu'au départ, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Et puis après, il y a eu un revirement de situation.
En fait, notre stratégie, comme je vous disais tout à l'heure, a évolué. C'est-à-dire qu'en 2017, on était parti vers une électrification. Et puis à un moment donné, en réalité, d'ailleurs, ça fait réagir certains sur la norme Euro 7 là, dont on a entendu parler ces derniers jours. Vous devez prendre une décision. Sur quoi est-ce que vous investissez réellement?
Bien sûr.
Et nous, on a décidé, alors aussi, peut-être parce qu'il y avait cette conviction de la famille Ford, du besoin de travailler en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, Et donc cette réelle conviction de devoir aller à 100% sur le tout électrique. Et donc on a décidé ça réellement il y a 2 ans de cela. Et on investit 50 milliards de dollars au niveau global d'ici à 2026 pour donc arriver à ces échéances et avec des étapes en 2024. Donc on parlait d'échéances tout à l'heure. 2024, c'est dans 2 ans pour nous. Nous, on va lancer en Europe pas moins de 7 nouveaux véhicules électriques, 4 véhicules particuliers, 3 véhicules utilitaires, ce qui fait qu'on aura une gamme complète de 9 véhicules électriques dès 2024. Et puis ensuite, pour aller vers mon 100%, 2026, 600 000 véhicules électriques produits en Europe. Mmh. Et puis c'est à peu près la moitié du volume de Ford. On fait 1,2 million une année normale. Et puis donc, comme ça, des étapes jusqu'en 2030. 2030, on a prévu d'utiliser du carbone, de l'acier à faible carbone. Donc on voit qu'il y a tout un écosystème
qui est en train de se mettre en place.
Autour de cette stratégie d'électrification qui va nous aider à atteindre notre objectif de neutralité carbone. Et puis, il y a un autre point qui est intéressant, c'est aussi un changement dans les processus industriels, c'est-à-dire qu'au fil du temps, entre 1903 et, on va dire, les années 2000, le début des années 2000, les constructeurs sont passés de constructeurs à de plus en plus assembleurs de véhicules. Et aujourd'hui, on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on retourne à verticaliser notre production, puisque non seulement avec l'électrique, on va construire nos véhicules, mais on va aussi, on investit dans les usines de batteries avec des gigafactories. On va avoir 3 gigafactories au niveau mondial, une aux États-Unis, une en Chine et une dans notre zone, nous, qui est Europe Middle East.
Oui, c'est en Turquie, je crois.
Absolument.
Dommage que vous n'ayez pas choisi la France.
Tout à fait. Pour les véhicules et les utilitaires, en réalité, parce que, donc, une usine de 60 mégawatts. Et puis, on investit également, et ça, c'est vraisemblablement, vous parliez de revirement de stratégie. La crise du Covid aussi et la crise des semi-conducteurs qui a suivi cette crise du Covid nous a entraîné à prendre des décisions stratégiques fortes. On a également investi dans tout ce qui est semi-conducteur. Là aussi, pour internaliser la production et dérisquer cette capacité à produire des véhicules électriques.
Alors, on va revenir sur la stratégie électrique parce que finalement, aujourd'hui, un constructeur électrique de véhicules s'intéresse évidemment à la technologie, à la batterie, mais après, il y a toute la chaîne, en fait, d'électrification. Il y a les bornes de recharge, les installations, etc., à la fois dans les rues, sur les routes, mais aussi chez les particuliers. Quelle est votre stratégie là-dessus? Est-ce que vous vous dites, je suis constructeur auto, je m'occupe que de mes batteries et de mon véhicule, ou est-ce que vous accompagnez aussi vos clients, ou les collectivités aussi, pour qu'il y ait de plus en plus de bornes? Parce que, on va avoir un problème. Non?
Alors, tout à fait. Sujet. Vous avez raison. Il faut, quand on regarde aujourd'hui là où on en est en termes d'équipement en borne, il faudrait accélérer, multiplier par 10 le taux d'équipement mensuel en borne au niveau européen. Alors il y a des pays plus en retard, l'Angleterre par exemple, d'autres un peu plus en avance.
Tournons-nous vers les pays qu'il faudrait challenger.
Mais néanmoins, x10, donc ça fait quand même beaucoup. Et donc quelle est la vision de Ford dans tout cela? La vision de Ford est de créer un réel écosystème autour de cette électrification. Donc évidemment, proposer les véhicules électriques, première étape. Et puis accompagner nos clients dans leur facilité d'usage du véhicule électrique. Ce qu'on fait d'ores et déjà très bien pour notre branche véhicule utilitaire avec cette marque Ford Pro, Pro pour productivité, qu'on a lancé il y a quelques mois de cela, où donc la recharge fait partie des piliers de la marque. Et on propose la recharge en réalité à 3 niveaux différents. Premier niveau, à domicile, donc domicile du particulier ou domicile de l'entrepreneur ou de l'artisan. Deuxième niveau pour les entreprises peut-être de plus grande échelle, ou les entreprises pour lesquelles les véhicules reviendraient au parc de l'entreprise le soir, ce qu'on appelle chez nous le dépôt de charging, avec la capacité d'utiliser, d'implanter des structures multibornes avec différents wattages ou différentes puissances de bornes en fonction des usages et de la nécessité de vitesse de recharge des véhicules. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la recharge longue distance. Vous savez que Ford fait partie de ce consortium avec quelques autres constructeurs qui s'appelle Unity. Et donc, le créneau de Unity est de se positionner.
Oui, et de créer un réseau de bornes, en fait.
Absolument, sur les axes routiers, les axes grands routiers, je dirais, donc autoroute tout d'abord.
Un peu comme le réseau de Tesla, finalement, avec les superchargeurs.
Oui, tout à fait. Ce sont des réseaux de superchargeurs qui vont jusqu'à 350 kW. Et puis ensuite, il reste, alors là on n'y est pas, donc nous on a pris ces deux créneaux-là, on va dire à domicile et en itinérance. Et après il y a la recharge dite de destination, et là on voit que ce sont plutôt les municipalités qui ont pris cet axe de recherche de destination. Les grandes surfaces aussi, parce que de plus en plus, on voit que, c'est plus pour le client particulier, là, qu'on va aller recharger son véhicule. C'est déjà très vrai aux États-Unis, mais de plus en plus vrai en Europe également. On va recharger son véhicule pendant qu'on fait ses courses.
C'est ça.
On a à peu près 40 minutes, une heure, c'est très convaincant.
C'est Lidl qui accélère sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais de plus en plus de Lidl installent dans leur parking, en fait, des bornes, même des bornes avec des recharges de très très haute capacité de rapidité.
Ouais, tout à fait. Et on est réellement convaincu qu'il faut l'écosystème. Chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et si on veut avoir cette capacité à accélérer, ce fameux x10, il faut que chacun contribue. Les constructeurs, les municipalités, les pouvoirs publics.
Alors, souvent, quand on évoque la voiture de demain, alors c'est l'électrification, bien évidemment, c'est le zéro carbone. Il y a aussi le concept de véhicule autonome. Où est-ce qu'on en est, Louis-Carl Vignon? Parce que j'ai appris qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous jetiez l'éponge concernant Argo AI, qui était l'association que vous aviez avec Volkswagen concernant la voiture robot, cette voiture autonome. Vous avez dépensé des milliards là-dedans. Vous arrêtez ce projet-là. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, Argo AI, effectivement, était une société d'intelligence artificielle dans laquelle nous avons investi. Puis Volkswagen, effectivement, nous a rejoint, qui était en faveur du développement du véhicule autonome, qui est plus important aux États-Unis qu'il ne l'est en Europe.
Oui, parce qu'il est plus facile.
C'est plus facile à mettre en place.
Les routes sont plus simples.
Voilà.
Et la réglementation est peut-être un petit peu en avance.
Vous tournez à droite au feu rouge s'il n'y a pas de piéton, par exemple. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple que chez nous. Et donc, on a fait quelques use cases. On a vu, certains se souviendront des images de ces Mondeo qui étaient équipés en véhicule autonome et qui venaient faire la livraison d'un supermarché chez le client particulier directement. Mais en fait, on a fait le constat que il fallait investir beaucoup et que à moyen terme, le véhicule autonome n'aurait pas un business case profitable, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. À l'opposé, on voit que l'autonomie des véhicules, donc l'autonomie de niveau 2, c'est là où on est aujourd'hui, niveau 3, niveau 4, va elle faciliter l'usage, et avec le véhicule électrique, est rendue de plus en plus facile. Donc, on a décidé, effectivement, de désinvestir par rapport au véhicule autonome pour se concentrer, au contraire, sur le développement, sur l'accélération de le passage de l'autonomie de 2, dans laquelle on est aujourd'hui, à 3, et on a lancé chez Ford, alors ce n'est pas encore disponible en Europe, mais ça va arriver très rapidement, ce qu'on appelle Blue Cruise. Blue Cruise, c'est une option qui va être disponible sur la Mustang Mach-E, par exemple, et qui vous permettra, entre autres, de changer de fil sans avoir les mains sur le volant, de revenir dans votre fil, donc un niveau d'autonomie supérieur à ce que la plupart...
Vous faites depuis pas mal de temps, d'ailleurs.
Alors, aux États-Unis, où effectivement, ils ont fait ce niveau d'autonomie-là. Ouais. Mais donc, on entend le développer à plus grand niveau, et entre autres en Europe.
En Europe, d'accord. Dernière petite question. On voit que Renault est en train de passer des accords très puissants avec Google, Google Automotive, pour à la fois tout ce qui est le système de divertissement, mais aussi, on va dire, dans le hardware du véhicule. Où en est Ford?
Alors, vous en parliez tout à l'heure en introduction. Le véhicule devient une sorte de smartphone.
C'est vrai,
De plus en plus. Et dans notre vision, là aussi, et ce qu'on est en train de développer, ça fait partie, je reviens à Ford Pro, je vous ai dit, il y a un pilier qui est le pilier recharge, un autre pilier, le pilier software, justement, parce que le véhicule génère des millions et des millions de data à la seconde, et ces data, si on les utilise bien, permettent d'enrichir l'expérience de l'utilisateur. Je reviens à l'exemple de mon artisan. L'artisan, il est extrêmement important pour lui que son véhicule ne soit pas immobilisé, et donc grâce à la data, on peut avoir réellement une action proactive,
bien sûr,
en fonction de ce qui va se passer dans le véhicule.
Prévenir les pannes, des choses comme ça.
Voilà, etc. Et donc là aussi, on travaille avec Google, entre autres, pour donc tout ce qui est système d'exploitation de nos véhicules. Et puis, je reviens à la Mustang Mach-E, là, sur le modèle, la nouvelle évolution, on va lancer par exemple Alexa, donc sur le nouveau modèle Year, comme on dit chez nous,
l'année modèle. Alexa, c'est pas Google, c'est Amazon.
C'est pas Google, là, pour le coup. Mais donc, on aura un assistant vocal Alexa dans la voiture. Et là aussi, ça va faire gagner en termes d'expérience client.
D'accord.
Parce qu'on pourra, celui qui aura son portail radio commandé pourra dire en arrivant Alexa, peux-tu ouvrir mon portail?
Formidable. Eh bien, merci beaucoup. La Mustang E qui est toujours votre flagship électrique.
Absolument.
Les prochains modèles électriques arrivent l'année prochaine.
Les prochains modèles arrivent dès l'année prochaine. Véhicules particuliers et véhicules
pour les pros aussi. Ouais. Merci beaucoup, Louis Carvignon, pour ce point complet. On aurait pu parler des heures encore de toutes ces innovations. Rappelons que vous êtes le président de Ford France. Merci.
Merci.
Et vous restez avec nous bientôt 20h30 sur BFM Business, l'Info Éco, et on repart Tech & Co chaque soir 20h-22h. À tout de suite.